La tête à l'envers. Laurence Froidevaux.
Bonjour Dorian Russell. Je commence cette émission par un essai de voix.
Alors, c'est un bon début.
C'est un bon début pour une émission de radio. Pour faire cet essai de voix, je sais pas, dites-moi ce qui vous a fait plaisir cette semaine.
Oh ben l'évolution du travail.
Chaque jour. Beaucoup trop fort, pardon. On recommence.
C'est pas trop fort. C'est marrant, comme comédien, on m'a jamais dit de parler plus fort. On m'a toujours dit, même on faisait des spectacles en plein air, ils disaient tout le monde doit parler beaucoup plus fort, sauf Dorian, ça va.
Besoin de vous faire entendre ?
Non, c'est que j'ai toujours bien placé ma voix.
Voilà, c'est ça. On se rencontre, Dorian Russell, metteur en scène, pour parler de Cosmos, qui est votre prochaine création, que l'on peut voir très très prochainement, tout d'abord au Forum Mérin, où on se trouve, ensuite à Vidi, puis j'imagine après en tournée. On est à l'extérieur, à Mérin, il y a un centre commercial, c'est un drôle de théâtre, qui a un look un peu particulier, qui est au milieu des HLM et des centres commerciaux. Je propose, Dorian Russell, qu'on sorte juste de ce hall extérieur, de cette immense verrière, où il fait très chaud.
Ouais, en fait, c'est comme souvent, c'est un théâtre qui a 17 ans, et c'est un théâtre qui était... Comme souvent, on veut faire une salle polyvalente qui est prête à accueillir tout. Et puis après, quelque chose qui doit être modulable en tout, finalement, est très très pratique pour moins de choses qu'on voudrait. C'est une grande salle, 700 places, un plateau un peu petit. Il y a beaucoup de spectacles que Anne Brunschweiler n'arrive pas à...
La directrice oui. Du Théâtre Forum Mérin.
Pardon, oui. Elle ne peut pas accueillir parce que ça ne rentre pas techniquement.
Alors, si on entre par la porte principale, par l'entrée principale du Théâtre Forum Mérin, il y a évidemment une affiche au-dessus de la porte, Théâtre Forum Mérin, saison 2012-2013, et tout en haut, c'est vous. Et c'est marrant parce qu'il y a des artistes qui sont en grandes lettres, vous, Camille, Jacques Gamblin, la compagnie Alias...
Et Bob Wilson en tout petit, ça me fait beaucoup rire.
Mais ça dit quelque chose, selon vous, de l'importance qui est donnée aux artistes ?
Non, je crois que c'est un jeu graphique. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et moi, ce n'est vraiment pas pour ça que je fais ce métier. Mon but, c'est de... Peut-être quand j'étais comédien, c'était pour devenir une star. Mais mon but, c'est de... Comment je peux aider les comédiens ? Comment je peux aider un propos d'une histoire ? Comment je peux essayer de faire un spectacle qui trouve une résonance juste à un moment donné précis pour les groupes de personnes qui sont réunies là, ce soir-là ? Et le lendemain, il faut tout réinventer.
Mais comme comédien, on est sur la scène du théâtre et on les reçoit directement, ces applaudissements. Comme metteur en scène, on est un petit peu derrière quand même. On a toutes ces émotions, on est toujours plutôt dans le stress et dans l'angoisse que tout se passe bien, que le comédien n'oublie pas une réplique, que le décor soit bien mis en place.
C'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes sensations. Sur scène, il y a quelque chose qui se libère, qui s'échange, j'en dirais. Moi, en devenant metteur en scène, je me mets vraiment... au service vraiment d'un propos et des comédiens, comment je peux les aider. Et moi, j'ai jamais grand satisfaction, grand... J'essaie de guetter les moments où il y a quelque chose qui naît, qu'on peut pousser plus loin. Et comment faire que telle qualité, tel instinct qu'a eu un comédien se retrouve. C'est un métier particulier de jouer. Il faut chaque soir réinventer les intuitions magnifiques de la veille. Et puis, ne pas se perdre dans la peur. Klaus Michael Gruber, grand metteur en scène, dit « Les comédiens, c'est des êtres incroyables à partir du moment où ils ne sont plus dans la peur. » Donc le rôle du metteur en scène, c'est de comment faire qu'il n'y ait pas cette peur qui s'infiltre partout.
Alors on va parler de vos anciennes créations, dont Quartier lointain, dont L'usage du monde de Nicolas Bouvier, d'Orion Russell. Mais j'aimerais d'abord qu'on parle de Cosmos. Cosmos, c'est dans à peine une semaine. L'émission La tête à l'envers sera d'ailleurs diffusée le samedi 1er septembre, donc le lendemain de la première. Et moi, j'ai surtout envie de savoir, Cosmos, ça parle de quoi ? Ça va parler de quoi et ça va ressembler à quoi ? D'ailleurs, je propose que tout à l'heure, on aille sur le plateau du Théâtre Forum Mérin.
Cosmos, avant de dire de quoi ça va parler, je vais vous dire dans quel état on était quand... dès qu'un spectacle commence à se jouer, en l'occurrence, c'était L'usage du monde... On se dit, mais alors, où est-ce qu'on va aller ailleurs ? Où est-ce qu'on va aller après ? Où est-ce que... Il y avait cette langue de Nicolas Bouvier magnifique, et on avait envie de générer une expérience comme une expérience du monde, comme Nicolas Bouvier nous le raconte avec ses mots, mais sans les mots. On a servi des histoires ces dernières années. On a servi ce fait divers soupçon. On a servi Quartier lointain, manga japonais. On a servi le film La maman et la putain. On a servi La tempête. Et
Shakespeare.
Shakespeare pour les enfants à Amstramgram. L'usage du monde. Et on s'est dit, mais il se passe toujours des choses en répétition, des moments d'errance, des moments de quand les comédiens savent plus où ils vont, où ça s'arrête. Et là, il y a quelque chose qui se passe de magnifique. Et on voulait interroger cette chose particulière. Le théâtre, c'est pas que des histoires, c'est pas que des mots, c'est un moment partagé.
Et quand vous dites qu'il y a des moments comme ça en répétition, ou peut-être même lors des représentations, où ça s'arrête, où le comédien ne sait plus, ou peut-être le metteur en scène ne sait plus, c'est quoi ces moments ? Ils se manifestent comment ? Ils ressemblent à quoi ? C'est des sortes de moments de grâce ?
Alors il y a la grâce, il y a le vertige, il y a le... Bonjour ! Il y a la grâce, il y a le vertige, il y a le... Il y a le doute, c'est des moments, pour moi, où l'être humain se rapproche un peu de lui-même. Et j'aimerais créer des spectacles où un petit peu, enfin, en tout cas, tendre à ça, je ne dis pas qu'on y arrive, hein, vraiment loin pas, mais si le spectateur, il pouvait être un peu plus proche de lui à la fin du spectacle qu'au début. Que quelque chose fasse un tout petit peu tomber les masques, un tout petit peu plus calme. Et le rire permet ça. C'est une porte d'entrée, mais c'est pas tout. Et on voulait comment générer ça sur le plateau. Mais c'était remettre en question notre savoir-faire. Donc, dès la fin de la tournée, au mois de février, on a commencé à faire des sessions de recherche.
Oui, parce que j'allais le dire, la maîtrise, vous l'avez maintenant, avec le métier que vous avez. Vous en êtes plus ou moins à votre 10e création. Des créations qui sont, dans l'ensemble, appréciées par le public, saluées par la critique. Donc, je dirais, le savoir-faire, peut-être même les trucs et les combines, vous les avez. Le métier, vous l'avez.
Justement.
Donc, l'idée, c'était un petit peu de repartir à zéro.
Ou aller ailleurs, aller dans l'inconnu, dans le vide, dans ce moment où on ne sait pas. Je suis touché quand les gens savent pas, ont des blancs, décident de re-questionner leur vie. Et ces questionnements, par exemple, un des points de départ, c'était... J'ai relu Jean Genet, l'atelier d'Alberto Giacometti.
Ça, il faut que vous nous expliquiez. Hein. C'est ouais. Jean Genet qui posait pour le sculpteur Alberto Giacometti.
Oui. Et Jean Genet a décrit ses séances de travail. Et j'ai lu ce texte que je connaissais depuis longtemps et je trouve que c'est un texte très très beau. Et après, j'ai lu d'autres textes sur Giacometti. Et Giacometti, inlassablement, il essayait de comprendre l'être humain qui était en face de lui, de le sculpter, d'en percevoir l'essence, d'aller dans... Pas sa forme, mais son être.
Les modèles que je prends d'habitude, c'est les personnes qui me sont le plus proches, ou des amis, c'est-à-dire ceux que je vois le plus souvent. Donc j'ai des relations affectives ou avec eux. Mais il m'est arrivé d'avoir des modèles qui m'étaient totalement indifférents, avec des visages indifférents. Après deux ou trois jours qu'il posait, il devenait exactement aussi passionnant que le visage le plus beau. C'est pas? Donc, pour mon travail, la question de laideur ou de beauté ne se présente absolument pas.
Et chaque jour, il recommençait. Il faisait des sculptures, on le sait, magnifiques. Mais il n'était jamais content. Et un jour, à une rétrospective de son œuvre, il était invité. Alors ça l'embêtait parce qu'il n'avait pas fini une de ses sculptures, mais il n'a jamais fini ses sculptures. Il fallait lui les arracher complètement. Et il va dans une exposition, c'était à Bâle. Et il dit « Waouh, c'est beau !» Et il est complètement étonné de ce qu'il a produit. Mais cette quête incessante, inlassable, il y a... Un documentaire que j'ai vu à la télé où il y a des chercheurs dans l'ancienne Union soviétique, des chercheurs scientifiques en haut d'une montagne. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien qui marche et ils continuent à chercher. Je trouve que ça y est, une poésie qui me touche beaucoup dans ça. Et alors on a commencé à faire des recherches avec ça. Est-ce qu'on peut faire une espèce de station où il y a des gens, chercheurs scientifiques, qui cherchent à enregistrer la résonance primaire de la naissance d'une étoile? C'est ça que font ces gens. Et finalement, ils entrent dans des considérations mystiques. Mais qu'est-ce qu'il y a après ces étoiles? Où on est là-dedans? Et en fait, c'était.
C'est quoi qui vous touche? C'est la poésie.
Mais oui, c'est
l'inutilité, peut-être aussi.
L'inutilité, ou plutôt le rapprochement à quelque chose de fondamental. On a tous ces moments de vertige. Et sur scène, comment générer ça un peu? J'en sais rien. Peut-être qu'on va passer totalement à côté, hein, bien sûr. Mais on peut être dans ces moments de poésie, de rencontre.
Ça vous taraude, vous, en tant qu'artiste et metteur en scène, en tant que personne également. Mais qu'est-ce qui vous dit que le spectateur va vous suivre là-dedans? Qu'est-ce qui vous dit que vous allez réussir à le traduire de manière à le présenter au public, je dirais, de manière simple, évidente?
On sait jamais si on y arrive. Ah, il y a les avions de...
qui volent, parce qu'on est près de l'aéroport, ici, à Mérin.
Ouais. On ne sait jamais si on va arriver. On peut essayer de sélectionner, c'est comme un cuisinier, on sélectionne les meilleurs aliments, on essaie de les préparer au mieux. Mais à un moment donné, l'alchimie qui se fait, c'est avec le public. Un metteur en scène, c'est un premier spectateur. À chaque fois, il essaie de comprendre qu'est-ce que... et essaie de générer un terrain d'envol, une piste de décollage.
Mais très concrètement, ça se passe comment? Vous leur dites quoi à vos comédiens?
Déjà, ce n'est pas des comédiens qui interprètent mon idée. C'est ensemble, on essaie de se questionner. Est-ce que c'est intéressant? S'il y a quelque chose qui n'intéresse que moi, c'est clair que... Avant tout, on essaie de générer, de comprendre notre art du théâtre. Comment faire? Qu'est-ce qui fait qu'on est fasciné par une chose? Comment... Et qu'est-ce qui est vraiment utile dans ça? Quelle est l'essence de ça? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'anecdote? Il y a cette phrase de Nicolas Bouvier à la fin de L'usage du monde, il dit « Devant cette étendue de terre et de roc, le monde de l'anecdote était comme aboli. » Devant certains actes, devant certaines paroles, il y a un moment donné où on est un peu moins dans la superficialité. Tout d'un coup, il y a une phrase qui nous met face à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Je ne voudrais pas faire peur aux spectateurs en leur disant « On va faire un spectacle sur le vide, c'est pas ça. » On va partager un moment et... À coup de petites choses, il y a des univers qui se créent. Mais on ne veut pas parler du... On ne va pas expliquer le cosmos. Ça fait 2 ans que j'ai dit des trucs là-dessus, je ne comprends toujours pas grand-chose. Par contre, ça me met, moi, dans des vertiges qui, finalement, sont plus proches de... Où est ma place dans ce monde? Comment être en lien avec les autres le plus... véritablement possible? On le sait quand tout d'un coup quelque chose nous touche profondément. On le sait, ces moments où ça se passe, quand on rencontre quelqu'un ou quelqu'un nous dit 3 mots et qui nous rappelle notre Madeleine de Proust ou nous évoque quelque chose qui nous met dans une mélancolie, dans un rire. Qu'est-ce qui fait que quand Jamel il sort telle phrase, ça nous fait rire, ça nous fait-il, ça nous met... Là, ça nous sort de notre pensée, de notre mécanicité, de notre... Et puis, c'est des êtres un peu... Sur scène, les comédiens, on se rend compte qu'il y a quelque chose de l'ordre du clown. Des êtres un peu perdus qui, inlassablement, ils font très sérieusement quelque chose et ça peut être totalement absurde. Par exemple, je suis frappé quand tout d'un coup, on peut marcher dans la rue et il y a un enfant qui pleure... Il y a une vieille dame qui, son sac se renverse, il y a toutes ces oranges qui se répandent sur le bitume et il y a un cosmos qui apparaît avec ses... Et pour elle, c'est un drame et toi, t'es en train de manger et il y a des gens qui passent à côté qui... Tu te dis, mais il faut se lever, il faut aller l'aider. Et tu te lèves et là, une personne qui a fini par s'arrêter et il y a quelque chose qui naît de ça. C'est un début d'histoire. Et si on avait décidé de raconter telle histoire de Marivaux, de Molière, de Shakespeare, ben, on serait peut-être passé à côté de ces petits moments-là de vie. Donc en fait, en se disant, libérons-nous un peu de ces histoires, repartons, faisons un peu table rase.
Et voyons ce qui sort de nous, de chacun d'entre nous.
Repartons du rien, du vide de nous, et laissons naître ce qui est là.
Je rappelle, Dorian Russell, qu'on est ensemble au Théâtre Forum Merin pour parler de votre prochaine création qui s'appelle Cosmos. Ouais. On est dehors, il fait très chaud. Tout à l'heure, il nous pleuvait dessus. On est entre le centre commercial, les HLM et le bistrot. Ouais. Je propose qu'on aille à l'intérieur, si vous êtes d'accord. Ouais. On va prendre nos affaires.
Mais c'est un lieu hyper cosmopolite, en fait. C'est une commune où, de par le fait qu'il y a le CERN aussi, à la base, c'était un peu une banlieue.
Merci de porter mon sac.
Oh. Ah, on va profiter de la porte qui s'ouvre parce que je me souviens plus du code. Merci beaucoup.
Merci.
Ah, il n'y a plus le glou-glou.
Voilà.
C'est agréable. À la base, c'était un peu une cité HLM. Après, ils ont amené le tram, il y a le CERN qui s'est construit. Et il y a une multitude de communautés. Et là, je commence avec le Forum Merin. On est compagnie en résidence.
Comme vous l'êtes toujours pour Vidi ?
Oui. J'avais demandé, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit, ben si René est d'accord, elle dit, mais oui, c'est très bien, il faut faire des ponts, il faut faire des liens, il faut qu'on s'entraide.
René Gonzalez, directeur du théâtre de Vidi, qui nous a quittés récemment.
Ouais.
Alors là, on est à l'entrée, mais intérieure cette fois-ci, du théâtre Forum Merin. Il y a l'endroit où on prend ses billets, mais qui est vide parce que c'est l'après-midi. Est-ce qu'on peut aller voir peut-être la scène ?
Oui, bien sûr. Il y a tous ces cartons avec tous les programmes de la saison. On a une résidence ici, un peu, et on a envie de faire des choses avec... Qu'est-ce qui serait utile de proposer aux gens ici ? Est-ce que c'est de faire des ateliers ensemble, des échanges, des soirées, aller faire du théâtre d'appartement chez eux ? On est en train de réfléchir à ça, qu'est-ce qui pourrait faire un lien, donner aux gens envie d'avoir la curiosité de venir... Si les gens, je me dis toujours... Si les gens avaient parfois la curiosité d'aller voir certaines choses, à part les stars, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils ont vu à la télé, ils auraient des surprises incroyables. Il y a quand même des spectacles incroyables. Bah là, si ça passe le 1er septembre, Jérôme Bell qui passe juste après nous sur la même salle, moi je suis honoré, je trouve que c'est un metteur en scène, chorégraphe incroyable. Là, il fait un travail avec des handicapés mentaux et c'est je crois que c'est vraiment bouleversant. Il y a une telle richesse de possibles avec les arts de la scène. C'est aussi riche que la musique, quoi. C'est aussi riche que... Il y a de tout. Il y a vraiment beaucoup de spectacles qui, moi, ne m'intéressent pas du tout. Et il y a une somme incroyable. Ou dans les arts contemporains. On croit toujours que l'art contemporain, c'est chiant, mais ce n'est pas vrai. C'est passionnant. Il y a des choses qui sont bouleversantes, quoi.
Vous nous direz d'ailleurs ce qui vous touche. On est entré dans la salle du théâtre. Qui est une grande salle, hein, 800 places, je crois que c'est vous.
Ouais, 700.
Environ 700-800 places. Salle assez moderne, un plateau relativement petit. Il y a 4-5 techniciens qui sont en train de travailler sur le plateau. Est-ce qu'on peut aller voir ce qui se passe ? Tout n'est pas prêt, mais ce qui serait intéressant, c'est quand même, pour moi, de comprendre un petit peu ce que vous imaginez. Parce que bon, quand même, la première, c'est bientôt là. Hein.
Il y a un moment donné, le travail du metteur en scène, c'est de dire... d'enlever ce qui est en trop. Par moment, c'est de dire faut parler plus fort. Et par moment, c'est... Il y a différentes phases comme ça. Spécialement dans un spectacle comme ça, qui ne part pas, où le texte est minoritaire, ce qui génère le sens, c'est la forme. Et du coup, il y a encore des scènes qui vont être peut-être déplacées, coupées, mises en boucle. On fait trois fois de suite la même scène qui s'accélère et puis pendant qu'il y a une personne qui regarde, la personne qui va dire ce poème-là juste après. Et ça génère quelque chose. Mais on se prend beaucoup la tête pour que les spectateurs ne se prennent pas la tête. Ça doit être un voyage. C'est comme un grand rêve, en fait.
Alors là, il y a trois personnes de l'équipe technique qui sont en train de discuter. Il y en a un qui est sur une échelle. Il y a des lampes par terre. Il y a des mots techniques que je ne connais pas. Là, comment ça s'appelle, cette chose, ces immenses rails
Ça, c'est un pont en trilithe. Mais ça fait partie du décor. En fait, c'est tous des éléments techniques d'un théâtre. On a décidé que ça serait le cœur de notre structure de jeu. Ça serait, c'est-à-dire que c'est ce qui normalement est caché, là, est visible.
Qu'est-ce que vous avez envie de montrer, alors là, par exemple, pour Cosmos ?
Qu'est-ce qui fait qu'un être, tout d'un coup, se révèle ? S'oublie. Qu'est-ce qui fait que les gouttes d'eau sur une toile cirée font une bulle ? Ça, il y a quelqu'un qui a eu un prix Nobel pour avoir essayé de... Quelqu'un me disait, un physicien me disait, parce qu'on essaie toujours de rencontrer, vous savez, déjà, il me disait, un physicien, c'est quelqu'un qui est comme un enfant quand il est petit, qui dit, mais pourquoi l'eau, ça mouille, pourquoi ça ? Sauf que Les enfants, des fois, ils arrêtent de poser des questions, puis les physiciens, eux, ils continuent à essayer de comprendre pourquoi tous ces mystères du monde.
Ça vous aurait plu d'être physicien ?
J'aurais pas eu le courage. En tout cas, c'est génial de se plonger dans... On ouvre des portes, ça ouvre d'autres portes, ça va plus loin, et puis c'est sans fin, quoi.
Mais de ce point de vue-là, vous faites un métier absolument merveilleux. Vous avez l'impression qu'il vous correspond ? C'est ça que vous vouliez faire petit, avoir du temps pour réfléchir aux choses de la vie qui vous touchent ?
Merci de votre enthousiasme. Non, mais c'est horrible, parce qu'on n'a jamais assez de temps. On voudrait toujours creuser plus, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours... C'est jamais assez, on comprend jamais, on n'est jamais sûr de comprendre assez loin, mais... Et toujours, la question centrale, c'est, et le spectateur dans tout ça, est-ce que lui, ça lui parle ? Est-ce que lui, ça va le toucher ? Pareil, si ça... Non, moi, je ne vois pas du tout ce métier comme moi, avoir du temps pour rêver pour moi. Non, c'est un travail de passeur, c'est un travail de communication. Alors, pas la communication comme les publicitaires, c'est un travail de générer un voyage, quoi. Générer une possibilité d'aller dans des sphères inconnues de nous-mêmes. J'essaie toujours que les spectacles comportent le plus de couleurs et de que ce soit en même temps solaire et en même temps sur la finitude de nos êtres, nos vies, tout est impermanent, tout meurt, tout renaît, tout. En tout cas, c'est très. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est tout ce qui peut être très très sur un fil entre. On sait qu'on est fragile. On peut être chef d'entreprise, tout marche bien et tout d'un coup, le cours de la bourse s'écroule. Ou juste l'enfant, si l'enfant de, je sais pas, Bill Gates se prend le doigt dans la porte et doit aller à l'hôpital, toute sa superbe, et peu importe son argent, peu importe où son enfant face à un vrai drame, quoi.
Et c'est ça qui vous plaît. Il y a un régisseur qui a un très bel accent québécois.
Énormément à 10, j'adore.
Qu'est-ce qu'il fait, lui, par exemple, ici ?
Il est régisseur général. Et c'est très précieux. Lui, c'est le grand chef d'orchestre de tout.
De tout ce qui est technique ?
De tout ce qui est technique, de tout. Ça doit marcher, lui. Et c'est lui qui m'a dit, il y a 2 jours, il m'a dit, écoute, il y a un service de répétition, il faut que tu me le donnes. Il faut que vous alliez répéter dans les couloirs, parce que j'ai besoin du plateau pour avancer. Sinon, ça ne va jamais bien fonctionner. Les rails ne vont jamais bien... Et moi, je me plie à ça parce qu'on travaille ensemble. C'est pas, je suis pas chef. Des fois, en blague, il y en a un qui me dit « Alors, patron ?» Je dis « Non, je suis pas un patron. » Tous ensemble, on essaie de faire que...
On jette encore un œil au décor.
Je sais pas si on va arriver à faire, mais c'est des lampes qui peuvent descendre au sol. Et puis, on peut les faire balancer comme ça. Et ça peut descendre jusque très proche du sol. Et ça éclaire le bleu. Et par reflet, ça fait... Quand la source arrive face au bleu, c'est très fort. Et après, ça décline. Et si tous on les fait, les 9 lampes, on les fait balancer comme ça, il y a un effet de... Par moment, il y en a 2 qui sont ensemble, qui se synchronisent, ils se désynchronisent. Et c'est comme s'il y a des couples qui naissent et qui disparaissent.
Autrement dit, Dorian Russell, là, dans l'exemple que vous me donnez, pour parler de cosmos, là, c'est les lumières qui vont avoir un propos, et pas forcément le texte ou le jeu des comédiens.
C'est vraiment un spectacle, on essaye au maximum que tout est source de narration, on le sait, mais il y a des moments où il y a une lampe qui éclaire, et c'est ça qui nous parle. Et puis après, c'est le son, tout d'un coup, là, il y a des micros planqués sous le plancher, c'est pour ça qu'on a fait un faux plancher par-dessus, qu'on a pu peindre en bleu, sinon... Toutes les scènes sont normalement peintes en noir parce que c'est une espèce de convention. Et on a pu le peindre en bleu et on a pu mettre des micros et on peut amplifier des sons. Juste des gens qui marchent et tout d'un coup on amplifie les sons et ça prend tout l'espace. Ça devient presque un tremblement de terre. Hein. Juste des gens qui marchent et qui sont dans une mécanicité de leur marche. Une marche comme ça frénétique qui accélère. Et tout d'un coup il y a une personne qui s'arrête. Et tout d'un coup ça, on fait comme un gros plan sur lui. On a fait l'essai, les spectateurs, tout d'un coup, ils voient comme un gouffre dans ses yeux, quoi.
J'ai remarqué que vous travaillez avec une équipe fidèle depuis longtemps, et notamment votre dramaturge.
Ouais.
Corinne Corajou.
Karine Corajou.
Karine Corajou.
Muriel Magos. Karine Corajou, ouais, je la connais depuis que j'ai 13 ans. Et on a fait l'école de théâtre ensemble. On a un jour d'écart.
Qu'est-ce qu'elle fait très concrètement, la dramaturge ?
Dramaturge, c'est un rôle qui s'invente à chaque fois. Étymologiquement, dramaturge, c'est le tissage de l'action. C'est quelqu'un qui, si on monte un Shakespeare, elle est garante de la structure du texte, la compréhension du texte. Quand c'est un Shakespeare, il y a des terminologies, il y a des expressions. Un dramaturge va aller potasser dans les livres pour comprendre ça. Dans notre cas, quand on fait des créations, c'est-à-dire pas à partir d'un texte, on en parle longtemps avant. Et elle a ce spectacle depuis 2 ans dans sa tête aussi, comme moi. On lit des livres, on se passe des livres, on lit un article, ça fait un lien. Tout d'un coup, on essaye toujours les scènes qu'on trouve instinctivement en répétition. Je lui en parle, elle les voit. Elle n'est pas toujours là en répétition, mais on essaie de comprendre aussi intellectuellement pour être sûr que ce soit pas juste une bonne idée que ça. Et pareil, il y a des instincts qu'on... On essaie de faire un va-et-vient entre la table... La réflexion et l'expérimentation. L'un doit éclairer l'autre. Voilà. S'il y a une scène qui est super, très jolie, mais on ne la comprend pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire vraiment ? Et parfois, je lui dis, écoute, il y a une scène sublime qui est arrivée aujourd'hui, poétique, mais je ne comprends pas très bien ce que ça raconte. Et elle a une fonction de mémoire un peu. Elle me dit, mais est-ce que ça évoquerait pas ça par hasard, cet article qu'on avait vu, tu te souviens ? Ou même... cet article qu'on a vu il y a 10 ans, vu que maintenant ça fait...
Mais du coup, elle vous dira, le comédien peut peut-être le dire de cette manière.
Oui. Alors, elle me dit, je dis, ah oui, c'est ça. Dans ce cas, il faut que je renforce ça. Et après, clac, ça apparaît. Et les gens dans la salle peuvent soit juste jouir de la réception directe de ça, ou quelqu'un qui veut lire, parcourir le spectacle avec sa tête aussi, pas juste... Il y a un fil entre telle scène et telle scène. Mmh. Mais je ne veux pas à tout prix que les comédiens, les spectateurs passent leur temps dans leur tête. Il s'agit de faire fonctionner toutes les...
Ce que vous disiez, c'est beaucoup de travail pour qu'on voit qu'il y a pas pour que le spectateur ne voit pas le travail. Mmh. On est toujours sur le plateau d'Orient Rossel.
Moi, je trouve. Ils sont partis en pause.
Il y a moins de bruit. Exactement. Les techniciens sont partis en pause. Tout à l'heure, c'est l'équipe des comédiens qui va arriver. Il y a pas mal de choses autour de nous.
Il faut qu'on... Il y a toujours une phase dans le travail où on accumule des choses parce qu'il y a 300 scènes qu'on a développées.
Bon, il y a des cendriers pleins, il y a des chaussures.
Ah, mais ça, c'est un accessoire. Parce qu'à un moment donné, on envoie de la fumée et dans un gros nuage de fumée, il y a quelqu'un qui s'allume une cigarette et quelqu'un qui lui dit « Tu sais, je ne sais pas si c'est prudent de fumer. » Alors, est-ce que la scène va être gardée aussi ? Et donc, du coup, elle doit l'éteindre dans ce cendrier et non pas sur le plateau parce que ça a laissé une petite trace là. Donc voilà. On va repeindre.
Il y a une grosse sphère en bois qui évoque la Terre, évidemment, ou la Lune, ou le Soleil.
Ou ce qu'on veut.
Si je
la libère de sa rampe de lancement, c'est, ça roule, ça fait un bruit sur ce plancher.
C'est une boule en bois.
Elle est extrêmement lourde.
Elle est lourde.
Elle est magnifique.
Elle doit faire au niveau de la dimension ?
Je ne sais pas, 1m30 sur 1m30 en bois. Et il faut être à 4 pour la porter. Là, heureusement, on peut la faire rouler. Et c'est une présence mystérieuse qui déboule au milieu des comédiens.
Elle va être un élément du décor, cette sphère.
Oui, ça, c'est sûr. Mm-hmm. Là, il y a un costume de Spider-Man. Parce qu'il y a un être qui essaie toujours un peu d'être un super-héros dans le spectacle. Et à la fin, il arrive à décoller grâce à des petits feux de Bengale qu'il a accrochés sur ses chaussures. Donc voilà, c'est une poésie non narrative. C'est un petite balade comme ça en onirique, comme dans un rêve. D'ailleurs, Gaston Bachelard, un philosophe, a écrit sur. On est tombé sur un texte qui s'appelle Rêve et Cosmos, et il dit on n'a jamais bien vu le monde tant qu'on l'a pas rêvé. Ça, c'est peut-être une phrase qui résume un peu le spectacle.
Tête à l'envers. La tête à l'envers. Laurence Froidevaux.
Alors, on est toujours sur le plateau du Théâtre Forum Hérin. Avec vous, Dorian Rossel, vous avez sorti un petit jouet pour les enfants. C'est joli, c'est une toupie.
Ouais.
Vous allez l'utiliser ?
Ouais, ça c'est sûr. Ça paraît bête comme ça, mais c'est un très beau moment. Alors, je vous le fais parce que c'est un joli son.
Suspendu à la toupie. C'est un joli son.
C'est beau.
Et c'est un beau moment.
Et on arrive à
et c'est beau de regarder.
Ouais, à un moment donné, on le fait sur une table et ça amplifie. On a réussi à amplifier la table.
Il y a 5 comédiens sur scène. Vous m'en présentez 2. Il y aura de la musique aussi.
Ouais. C'est Soledad San, Paul Courlet, et puis aussi Noémie Alberganti qui est danseuse, Karine Kadjar et Étienne Fag. Et là, ceux qui chantent là, c'est ils s'accordent.
On est encore en pleine répète, mais il y aura de la musique, ça c'est sûr.
Oui, oui, on a fait beaucoup de recherches. Parce qu'en fait, la vibration, les ondes, tout ça, c'est tellement présent tout le temps dans qu'une onde et une particule puissent être considérées comme la même chose. Toute chose peut être vue comme une onde ou une particule. Donc la vibration des cordes, on tend des cordes dans l'espace et on met des micros aussi pour... Bon, ça c'est une contrebasse.
Je vais aller les enregistrer. On est toujours dans... Ben là, on est sur la scène, sur le plateau du Théâtre Forum Mérin pour parler de Cosmos que l'on pourra voir dans le cadre du théâtre du Festival de la Bâtie d'Orient Russell. Je vous ai amené un son, quelque chose à écouter. Si vous voulez bien, on se déplace, on se met dans un des fauteuils du Théâtre Forum Mérin. Et puis, ben, je vais vous demander d'écouter ce son. Je suis sûre que vous allez reconnaître assez rapidement qui parle.
Je te prépare, je te fais une toute petite mini-perfo à base de...
Ouais, volontiers.
À base de métronome. Ce que j'expliquais à partir de, ce que j'expliquais à partir des lampes qui se balancent de gauche à droite avec des métronomes, il y a quelque chose de ça aussi. Voilà. Il y a des compositeurs qui ont fait ça avec 100 métronomes.
C'est beau d'ailleurs.
Alors, il y a une poésie visuelle de ça. Voilà, ça fait
une poésie visuelle, mais il y a aussi... C'est marrant parce que ça calme, non ? Ça pose.
Alors ça, il y a un des comédiens de Quartier Lointain qui est venu de Nantes hier pour voir un filage. Je suis très reconnaissant, mais aussi pour... Parce qu'il est aussi une des mémoires de la compagnie, en fait. Tous les gens qui ont...
La compagnie super trop top.
Et il est venu voir et il a dit... Oh, ça calme, c'est un spectacle qui calme aussi. C'est marrant, il a dit la même chose que vous. Il dit, ça pose les questions que tout le monde se pose, mais sans, j'espère, en tout cas, je suis très contente qu'il ait dit ça, sans cynisme, sans ironie, je suis fatigué de ça. Toujours de le nul, le raté, le... Ça a été beaucoup exploité, je trouve, dans l'art contemporain, dans la scène, dans le... Oh, Dieu, il a l'air con. Et puis rigoler de ça, bon... Et que ça pose des questions importantes, sans ironie, sans pessimisme, quoi. C'est plutôt... Et d'ailleurs, souvent, les scientifiques, les astrophysiciens, les philosophes, tout ce qu'on a pu lire, souvent, la fin, que ce soit Hubert Reeves, que ce soit Hawkins, que ce soit Michel Cassé, que ce soit Edgar Morin, tout ça... Ils se tournent, ils sont extrêmement nourris de poésie. L'importance du lien, de l'autre, de l'être ici, maintenant, d'être relié au monde. Pas dans sa bulle, pas dans... D'être dans ce lien que génère l'art. Ils sont extrêmement touchés par l'art. Puis il y a un astrophysicien russe qui s'appelle Ilya Prigorine, je crois, quelque chose comme ça, qui a écrit sur le temps et il a dit « On est d'accord de se dire que sans Michel-Ange, sans... Mozart, sans Léonard Vinci, il n'y aurait pas eu la Joconde, il n'y aurait pas eu la Chapelle Sixtine et il n'y aurait pas eu la Petite Musique de Nuit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si Albert Einstein n'avait pas existé, on n'en serait peut-être pas du tout là où on en est aujourd'hui. La théorie de la relativité, ce n'est pas du tout sûr qu'on se dit « oui, c'est lui qui l'a trouvé, mais 2 ans après, quelqu'un l'aurait trouvé ». Et ce n'est pas vrai. ils sont totalement dans l'invention de concepts. Voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Et ils génèrent, c'est des générateurs de poésie. Écoutez Michel Cassé parler, c'est un poète, vraiment. Le nombre de scientifiques, au CERN, ils invitent des artistes. Le nombre de scientifiques qui se nourrissent des arts et les artistes qui se nourrissent de la science. C'est incroyable, mais je comprends. Parce que c'est des sources incroyables.
Je vais vous demander de tenir mon micro, Dorian Roissel, pendant que je vais chercher sur mon téléphone portable le son que je suis allé avec plaisir. Et pendant ce temps, je vais chercher le son que je vous ai amené.
Je peux dire un secret, je peux glisser un secret au micro pendant qu'elle va chercher. Elle ne l'entendra que quand elle fera le montage. La minute de solitude. Quand est-ce qu'on a des minutes de solitude? Des moments où on est seul avec soi. Sans trop de bruit dans la tête. Ça arrive. Le silence d'une salle de spectacle, c'est génial. C'est rarement totalement silencieux une salle de spectacle. Au début des spectacles, il y a toujours quelqu'un qui dit, quand on arrive dans une salle, il dit « Est-ce que vous voulez que je fasse une annonce pour dire de couper les téléphones portables ?» Je dis « Non, non, si y a un téléphone qui sonne, déjà, il en va de la responsabilité de chaque personne. » Ça fera partie, enfin, ça sera ce qui sera unique ce soir-là. Après, je préfère quand il n'y a pas de téléphone portable, mais quand quelqu'un tousse, en tout cas, je demande aux comédiens d'écouter, de ne pas faire comme si de rien n'était. Le spectacle se construit avec ce qui est là. Ouais,
bref. Je vous ai donc amené un son.
Ah.
Pour que vous teniez mon micro. Un son qu'on peut écouter sur mon téléphone portable. J'espère que ça va marcher.
Bah oui.
Ça dure quelques minutes, je vous retrouve après, puis surtout j'aimerais un petit commentaire. Je suis sûre que vous allez reconnaître de qui il s'agit.
Je crois que quand j'ai commencé, je ne savais pas grand-chose sur le théâtre. Je ne suis pas allé très souvent au théâtre.
Évidemment.
J'étais attiré.
Évidemment qui ?
J'étais attiré d'abord vers le cinéma.
Peter Brook.
Et puis, comme c'était très très difficile d'entrer dans le cinéma, toutes les portes étaient bloquées, fermées. J'avais 18 ans, j'avais très envie de faire quelque chose, de faire quelque chose avec mes propres mains. Et j'ai trouvé la possibilité plutôt dans le théâtre que dans le cinéma. Alors je m'étais dit, je ferai du théâtre comme un chemin qui va finir par me conduire au cinéma. Et en le faisant, je commençais à le faire d'une manière purement instinctive. Alors, parce que je commençais à le faire, j'allais voir des pièces dans les autres théâtres. Et je trouvais que le théâtre était très ennuyeux. Et comme je le trouvais très ennuyeux, je crois que c'était la chose qui m'a aidé le plus dans mon travail, parce que si on trouve tout bien et tout beau, on s'endort très facilement. Mais comme j'aimais très peu de choses que je voyais, je sentais le besoin de les faire autrement. Et c'est en travaillant d'une manière intuitive et en essayant de faire autrement, pas pour faire le scandale, mais parce que je ne pouvais pas supporter ce que je voyais autour de moi, que peu à peu, j'ai commencé à découvrir certaines règles, certaines conditions et finalement certaines lois de cette forme. Alors j'ai fini à définir pour moi-même ce que c'était que ce travail que j'étais déjà en train d'entreprendre. Et je crois que finalement, c'est la seule manière d'apprendre quoi que ce soit. Ce n'est pas par une vision extérieure et théorique, mais en le faisant, dans l'action. Le rôle du metteur en scène au théâtre est d'introduire la vitalité, c'est-à-dire de faire bouger. Vous avez une matière humaine. Et cette matière humaine a une immense potentialité. Un groupe d'acteurs sont capables de faire des choses inouïes. Parce que le corps humain contient un univers, donc un groupe, c'est un groupe d'univers qui se rencontrent. Mais en même temps, si ce groupe d'univers qui se rencontrent travaille d'une mauvaise manière, la vitalité sortant de l'un, au lieu de nourrir la vitalité sortant de l'autre, peut très facilement le bloquer. Donc il est très facile pour un groupe, au lieu de travailler de telle manière que tout sorte, de se trouver coincé. Donc le rôle du metteur en scène est de créer les conditions, d'introduire les provocations, d'introduire en même temps l'écoute, pour que tout ce qui est prêt à bouger à l'intérieur du groupe commence à bouger d'une manière de plus en plus libre. Donc il doit animer, évoquer, et à partir de cela, guider, canaliser les énergies. Donc le mot animateur est peut-être un des mots les plus justes si on peut retrouver son sens essentiel. Il faut avoir la conviction qu'on n'est pas en danger pour pouvoir prendre des risques. Et c'est curieux, si on ne prend pas de risques, et c'est même la même chose plus tard devant un public, si on ne prend pas de risques, il n'y a pas de bons résultats. Et si on se sent en danger, on ne peut pas se mettre en danger. Donc il faut que les deux existent en même temps. Sentir qu'il n'y a pas de danger, donc je peux me mettre en danger.
C'était donc
Peter Brook.
Réalisateur, metteur en scène.
Ouais, la classe totale. Il est d'une totale cohérence entre ce qu'il est dans la vie, ses spectacles. C'est d'une telle grandeur, une telle qualité, voilà. Je parle tellement moins bien que lui. Enfin, c'est tellement riche, là, les 3 minutes. Chaque homme est un univers, chaque comédien est un univers. Bien sûr, Cosmos, voilà, c'est ça. Ça fait une heure que je parle pour essayer de parler de ce spectacle.
Il parle aussi beaucoup, j'ai pas tout gardé, mais il parle aussi beaucoup de l'amour qu'il a pour ses comédiens.
Ouais, et je pense, là, parce qu'ils vont, débarquer, et ils sont tellement chouettes. Et là, j'ai essayé de réunir des gens avec qui j'avais pas travaillé encore, sauf un, parce que... qui viennent d'univers différents, qui viennent de formations différentes. Quelqu'un qui a surtout travaillé dans le cirque, quelqu'un qui est musicien, quelqu'un qui est danseur, danseuse en l'occurrence, qui vient de la danse. Il faut que effectivement, mais ça c'est tellement juste aussi, c'est parce qu'on crée un cadre de sécurité pour qu'ils prennent des risques. C'est tellement juste ce qu'il dit. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, ça fait quoi d'être en résidence à Mérin? Je dis, mais le fait d'avoir c'est une sécurité, donc du coup, tous les risques sont possibles. C'est ça qui est important. C'est ça que Vidi génère aussi. C'est ça que j'ai cherché aussi tout le temps. Moi, j'ai toujours voulu tourner. J'ai toujours voulu montrer devant d'autres publics. J'ai toujours voulu...
Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces spectacles, par exemple, ou dans ces films, dans les quelques films qu'il a fait, qui vous a particulièrement plu et marqué pour que ce soit peut-être un modèle pour vous?
Ça, c'était des chocs, déjà. Comme il y a eu d'autres spectacles qui ont été des chocs, hein, bien sûr, pas que les siens. Mais il est venu voir Quartier Lointain à Paris.
Oui, et... parce que Quartier Lointain a tourné et est resté longuement à Paris.
Et un jour, je reçois un téléphone. Il dit « Oui, bonjour, c'est Peter. » Je reconnais tout de suite sa voix. Est-ce que je voudrais venir voir le spectacle, mais c'est complet. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Évidemment. Et il est venu avec Yoshio Ida, qui, pareil, c'est des maîtres. C'est vraiment Yoshio Ida, un de ses comédiens. Et Natacha Paris, son épouse, grande comédienne, incroyable, qui est venue créer un spectacle à la passerelle à Vidi, au Les Beaux Jours de Beckett, que Peter Brook vient créer dans une salle de 100 places, la passerelle. Mais quand on a créé L'usage du monde dans la passerelle... Enfin, mais il a dit un truc génial après. Bon, il a dit, tu crois que c'est possible? Et il m'a fait des compliments, j'oserais même pas les redire. Après, il a dit, tu crois que c'est possible d'aller rencontrer les comédiens, féliciter les comédiens? Je dis, évidemment. Et puis, et il est resté une heure avec nous dans les loges à parler.
Donc la rencontre avec Peter Brook, que vous adorez, que vous admirez, qui vient vous voir à Paris et qui vient parler aux comédiens.
On lui disait, tiens, tel petit moment, dans le... on l'a trouvé parce qu'on a repensé à tel spectacle de vous. Et tout ça. Puis il a dit, mais... On a... Et puis quelqu'un a dit, ah, puis un moment d'Orion, une fois tu nous as cité telle phrase de l'espace vide. Et puis il a dit, mais pour moi, la phrase la plus importante de l'espace vide, elle n'est jamais citée. Et on a tout le monde, laquelle bon, je ne sais plus, je ne la ressortirai pas comme ça, mais c'est, en gros, tous les mots que j'écris... Au moment où vous les lisez, cette phrase est déjà dépassée. C'est-à-dire, arrêtons de se baser sur ce qui a été fait. Tout son art et toute sa qualité, c'est quand on est face à lui, on n'est pas face à ce maître. On est face à quelqu'un et on est dans une rencontre ici, là, maintenant. Et qu'est-ce qui peut naître de là? Peu importe tout ce qu'il a pu faire, on s'en fout, quoi.
Ça rejoint aussi un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, tout à fait concrètement sur les répétitions. Vous disiez, on a beau tester, et maintenant on a de la chance parce qu'on a du temps et on veut toujours avoir le plus de temps possible de répétition pour tester des telles choses. Mais finalement, la vraie rencontre, c'est quand même lors de la première avec le public, que ça se passe ou pas.
Oui, et chaque soir, chaque jour, on essaie d'améliorer, de transformer, de comprendre, rectifier. Tiens, ici... Et si on essayait ça ce soir? Et c'est à peine visible, mais parfois ça change tout. Donc les gens nous disent « Ah, mais vous travaillez en improvisation ?» Non, tout est extrêmement précis. Le but, c'est celui-là. Après, on peut le prendre par ce biais-là. Regardez. Salut Paul. viens.
Qui est Paul?
Paul, c'est un amour. c'est un des comédiens, musicien, danseur... Il n'est que poésie et humour et amitié. C'est un mec super.
Alors donc, Paul, enchanté, bonjour.
Les jeux veulent toujours que ce soit le metteur en scène qui parle, mais c'est tellement plus intéressant que ce soit...
Ça fait une heure que j'essaye de faire dire à Dorian Russell, je lui demande, mais finalement, à quoi il va ressembler ce spectacle? Et on part sur plein de choses. Alors peut-être que vous, vous arrivez à me donner une ou deux images.
C'est nébuleux. Je crois que ça restera toujours nébuleux jusqu'à la première.
En tout cas, moi j'aime bien la part de mystère. Comment garder, laisser une place de mystère moi j'aime bien nébuleux, c'est bien, ouais.
Mais j'imagine que quand vous avez fait Quartier Lointain, où vous étiez basé sur une bande dessinée, ou Usage du monde, sur un texte de Bouvier, c'était assez clair. Il y a quand même un début, un milieu, une fin, il y a une écriture, il y a des choses qu'on veut montrer, il y a des images. Vous faites un théâtre vraiment d'images, il nous reste beaucoup d'images. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus sur de l'émotion.
Non, les images, alors là, sont très, très importantes. Aussi. Mais je pense toujours, une image doit jamais rester... Ça ne doit pas juste être une jolie image. Je dis ça des fois, je dis, si c'est juste une jolie image, bon, il faut qu'elle se dépasse, que ça évoque autre chose, que ça aille plus loin, et puis qu'elle sinon, juste une jolie image, la télé, parfois même y arrive, alors... non, on réunit des gens, des univers, et Paul, il a un univers, et il y a une poésie qui se dégage, et c'est un clown. Quelque chose que d'à part, de singulier. claque. C'est comme la vie, c'est fugace. Mais être le plus à 100% dans la vie, le plus généré de la vie, pas de l'anecdote, pas de la futilité, pas de la... Oui, c'est sympa. Non, ça serait raté, ça. Si c'est juste un joli spectacle. C'est déjà pas mal, mais je ne serais pas satisfait.
Bon, je sens qu'on pourrait parler des heures, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Dorian Rossel, Paul Courlet, l'un des 5 comédiens du spectacle de Cosmos, Cosmos que l'on peut voir dans le cadre de la Bâtie dès le...
31 août jusqu'au 5, et après à Vidi, et après on va aux Francophonies du Limousin. C'est un super festival, on est très fiers d'aller là-bas.
Pour présenter Cosmos. Et puis on rappelle aussi que Quartier Lointain et L'Usage du Monde vont tourner en 2013.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à toi, à vous.
C'était La Tête à l'envers, réalisée aujourd'hui par Marc Frochot, une émission que vous retrouvez tous les samedis sur Espace 2 de 12h à 13h. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le comédien André Wilms, acteur fétiche de Coris Maki et d'Étienne Châtillier, qui est en Suisse en ce moment pour présenter plusieurs spectacles dans le cadre du Festival de la Bâtie. Vous écoutez Espace 2, il est 13h, tout de suite le journal de la mi-journée en nouvelle diffusion. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end.